My brothers and sisters,
mes frères et sœurs, je suis reconnaissant de cette occasion de vous parler de la vision de l'Évangile sur les principes de la prêtrise concernant l'entraide au sein de l'Église rétablie de Jésus-Christ. Les nuages économiques qui menacent depuis longtemps notre monde sont à présent directement au-dessus de nos têtes. L'impact de cet orage économique sur les enfants de notre Père Céleste requiert aujourd'hui plus que jamais une vision de l'Évangile sur l'entraide. Les principes d'entraide fondés sur la prêtrise sont à la fois temporels et spirituels. Ils sont aussi éternels et s'appliquent en toutes circonstances. Que nous soyons riches ou pauvres, ils s'adressent à nous. Chaque fois que nous mettons en pratique les principes d'entraide, nous vivons la religion pure telle qu'elle est définie dans les Écritures. Le Sauveur a dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il a aussi enseigné que nous devons non seulement rechercher et visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, mais aussi nous préserver des souillures du monde. En d'autres termes, non seulement nous faisons le bien, mais nous nous efforçons également d'être bons. Voici donc la vision de l'Évangile sur l'entraide, mettre en action notre foi en Jésus-Christ. Nous servons les autres selon les directives de l'Esprit. En vivant les principes d'entraide de l'Évangile, nous mettons en application les enseignements du Sauveur ici, de la mortalité. Quels sont donc ces principes d'entraide? Comment pouvons-nous les appliquer comme fondement spirituel temporel dans notre vie quotidienne? On peut décrire le premier fondement comme étant la prévoyance. Cela signifie que nous vivons joyeusement selon nos moyens, en nous préparant pour les hauts et les bas de la vie, de telle sorte que nous serons prêts pour les urgences des jours d'orage, quand ils arriveront dans notre vie. Être prévoyant signifie ne pas convoiter les choses de ce monde. Cela signifie utiliser les ressources de la terre avec sagesse et ne pas gaspiller, même en période d'abondance. Être prévoyant signifie éviter les dettes excessives et nous contenter de ce que nous avons. Nous vivons à une époque où l'on prend tout pour un droit. Nombreux sont ceux qui croient qu'ils devraient avoir, de suite, tout ce que les autres ont. Incapables de repousser le plaisir d'avoir, ils s'endettent pour acquérir ce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Les résultats ont toujours des répercussions sur leur bien-être temporel et spirituel. Quand nous nous endettons, nous abandonnons une partie de notre précieux, inestimable libre-arbitre et nous imposons la contrainte d'une servitude. Nous engageons du temps, de l'énergie et des moyens pour rembourser ce que nous avons emprunté, alors que ces ressources auraient pu être employées pour nous aider nous-mêmes, notre famille et notre prochain. Au fur et à mesure que notre liberté est amoindrie par les dettes, un désespoir grandissant nous vide physiquement, déprime mentalement et nous accable spirituellement. L'image que nous avons de nous-mêmes est atteinte, de même que notre relation avec notre conjoint et nos enfants, avec nos amis et nos voisins, et en fin de compte avec le Seigneur. Rembourser nos dettes maintenant et les éviter à l'avenir requiert de notre part d'exercer notre foi dans le Sauveur, pas simplement de faire mieux, mais d'être meilleur. Il faut une grande foi pour prononcer ces mots simples. Je n'ai pas les moyens de l'acheter. Il faut de la foi pour espérer que la vie sera meilleure. Si nous sacrifions nos envies afin de satisfaire nos propres besoins et ceux des autres, je témoigne que l'homme qui vit selon ses moyens est heureux et est capable d'épargner un peu pour ses besoins purs, ses besoins futurs. Si nous sommes prévoyants et faisons grandir nos dons et talents, nous devenons plus autonomes. L'autonomie consiste à assumer la responsabilité de notre propre bien-être spirituel et temporel, ainsi que celui des êtres que notre Père Céleste nous a confiés. Ce n'est qu'une fois que nous sommes autonomes que nous pouvons réellement suivre le modèle du Sauveur, en servant et en bénissant les autres. Il est important de comprendre que l'autonomie est un moyen d'arriver à une fin. Notre but ultime est de devenir comme le Sauveur. Et ce but est mis en valeur par le service désintéressé envers notre prochain. Notre capacité de servir est accrue, réduite par notre niveau d'autonomie. Comme l'a précisé Manion Giromney jadis, la nourriture pour les gens qui ont faim ne sort pas d'étagères vides, L'argent pour aider les nécessiteux ne peut pas provenir d'un porte-monnaie vide. Le soutien et la compréhension ne peuvent pas venir d'une personne vide sur le plan émotionnel. L'enseignement ne peut pas être dispensé par des personnes qui ne sont pas instruites. Plus important, la direction spirituelle ne peut pas provenir de quelqu'un de faible spirituellement. Fin de citation. Comment pouvons-nous donc obtenir l'aide de notre Père Céleste afin d'avoir suffisamment pour nos propres besoins et pour servir notre prochain? Un des principes fondamentaux de l'entraide est le paiement de la dîme et des offrandes. Le premier objectif de la dîme est de faire grandir notre foi. En obéissant au commandement de payer annuellement un dixième de tous nos revenus, nous devenons meilleurs. Notre foi grandit et nous soutient dans les épreuves, les tribulations et les peines de la vie. Grâce au paiement de la dîme, nous apprenons également à contrôler nos désirs, nos appétits pour les choses de ce monde, à être honnêtes dans toutes nos relations avec nos semblables et à faire des sacrifices pour les autres. Avec notre foi, grandit notre désir de respecter les commandements de payer les offrandes de jeûne. Cette offrande représente au minimum le coût des deux repas que nous ne prenons pas pendant notre jeûne. Les offrandes de jeûne sont le moyen qui nous est donné de donner de façon anonyme, afin de bénir nos frères et sœurs dans leurs besoins spirituels et temporels, le faisant sans espérer en tirer un crédit ou un avantage terrestre. Donner généreusement nous permet de suivre le modèle du Sauveur, qui a donné gratuitement sa vie pour toute l'humanité. Il a dit, « Souvenez-vous en toutes choses des pauvres et des nécessiteux, des malades et des affligés, car celui qui ne fait pas ces choses n'est pas mon disciple. » En tant que véritable disciple du Christ, nous aussi nous donnons comme l'a fait le bon Samaritain, qui a courageusement porté secours à son frère, qui ne connaissait pas sur le bord du chemin. Joseph Smith a déclaré, « Un homme empli de l'amour de Dieu ne se contente pas de bénir seulement sa famille, mais il parcourt le monde à la recherche d'occasion de bénir tout le genre humain. » Comme l'ont conseillé les prophètes des derniers jours, certains des fondements les plus importants de l'entraide touchent la préparation en vue de l'avenir. Préparer l'avenir signifie budgéter nos revenus, établir et respecter soigneusement un budget familial personnel peut nous aider à discerner la différence entre nos désirs et nos besoins. Le fait d'examiner ce budget lors d'un conseil familial permettra à nos enfants d'apprendre et de mettre en pratique des habitudes de dépenses sages et de s'impliquer dans la planification et l'épargne en vue de l'avenir. Se préparer pour l'avenir signifie également acquérir une instruction, une formation professionnelle et trouver un emploi rémunérateur. Si vous êtes actuellement employé, faites tout ce que vous pouvez pour être un élément de valeur et essentiel pour l'organisation qui vous emploie. Travaillez dur et méritez votre salaire. Au fur et à mesure des réductions d'effectifs ou des fermetures d'entreprises, même des employés modèles risquent de devoir se chercher un nouvel emploi. C'est l'occasion de faire confiance au Seigneur, de grandir et d'être fortifié. Si vous êtes en recherche d'emploi, faites preuve d'une plus grande foi dans la volonté et le pouvoir du Seigneur de vous bénir. Prenez aussi conseil auprès des gens en qui vous avez confiance. Et n'ayez pas peur de vous constituer un réseau de connaissances et de demander de l'aide pour votre recherche. Si nécessaire, changez votre train de vie, voire votre domicile, afin de vivre selon vos moyens. Cherchez activement à suivre des formations complémentaires et acquérir de nouvelles compétences, quel que soit votre âge. Prenez soin de votre santé, restez proche de votre conjoint et de vos enfants. Et par-dessus tout, soyez reconnaissant. Exprimez votre reconnaissance et vos prières pour tout ce qui vous a été octroyé. Votre Père Céleste vous aime. Son Fils a promis, toutes ces choses vous donneront de l'expérience et seront pour votre bien. Mes frères et sœurs, le temps est venu d'établir les fondements de l'entraide dans notre vie et d'enseigner à nos frères et sœurs à faire de même. Les Écritures nous enseignent, si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas. En respectant les commandements et en vivant les principes de l'entraide, nous pouvons avoir l'Esprit du Seigneur avec nous constamment. Il nous soutiendra pendant les tempêtes de ces derniers jours et nous apportera la paix de l'âme. De la même façon que nous mettons de côté des ressources temporelles pour les jours d'orage, le respect des commandements, la prière, la lecture des Écritures et la confiance dans le Saint-Esprit nous préparent pour les épreuves des jours d'orage de notre vie quand nous avons besoin du Seigneur près de nous. Par notre obéissance, nous amassons la foi dont nous avons besoin pour affronter les vicissitudes et les difficultés de la vie. En nous préservant des souillures du monde, en étant bons de cette façon, nous serons capables de faire du bien à nos frères et sœurs du monde entier, temporellement et spirituellement. Je témoigne que l'application des principes de la prêtrise concernant l'entraide est la mesure de notre amour chrétien. Nous avons une occasion sacrée de mettre en pratique l'évangile rétabli du Christ sur terre, de mettre notre foi en action et de recevoir une plénitude de sa joie pendant cette vie et dans le monde à venir. Je rends mon témoignage spécial que notre Sauveur vit et qu'il a donné sa vie pour notre bien-être éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, c'est un privilège de vous parler du devoir de la présidente de Société de secours de la paroisse en matière d'entraide. Derrière moi se trouvent les portraits des femmes qui ont servi en tant que présidente générale de la Société de secours. L'étude de leur vie m'a rappelé que cette organisation a accompli son œuvre en temps de croissance et de prospérité, mais aussi en temps de guerre, de famine, d'épidémie et de dépression. Les leçons que nous apprenons du passé peuvent nous aider à nous frayer un chemin aujourd'hui au milieu des catastrophes naturelles, des guerres, des bouleversements gouvernementaux, des épreuves personnelles et des difficultés économiques. La Société de secours a pour vocation d'apporter du secours, ce qui signifie édifier, soulager, relever quelqu'un ou le sortir de difficultés. Nous avons toujours été chargés d'aider les femmes et leurs familles dans le devoir qui est le leur toute leur vie, d'encourager la foi et la justice personnelle, de fortifier les familles et les foyers et de servir le Seigneur et ses enfants. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie de notre œuvre qui concerne l'entraide au fil d'une discussion qui portera sur notre travail sous la direction de l'évêque afin d'organiser, d'enseigner et d'inspirer les sœurs à devenir autonomes. La Société de secours, dont le devoir est de veiller au bien-être spirituel et au salut de toutes les femmes de l'Église, a été organisée pour secourir le pauvre, le nécessiteux, la veuve et l'orphelin, et pour accomplir tout but bienveillant. Cela comprend le fait de soulager la pauvreté, la maladie, l'incertitude, l'ignorance et tout ce qui fait obstacle à la joie et au progrès de la femme. J'ai entendu le président Monson parler avec admiration des présidents de sociétés de secours qui ont servi à ses côtés quand il était jeune évêque. Elle et lui ont suivi le même modèle que celui que nous avons aujourd'hui. Sous sa direction, la présidente de sociétés de secours allait chez les membres pour se rendre compte s'ils avaient ou non assez de nourriture, de mobilier, de compétences, de force émotionnelle ou s'ils avaient d'autres soucis. À l'aide de la prière et de leurs dons spirituels, elle sollicitait l'inspiration pour évaluer avec justesse les besoins de ses foyers. Se fondant sur leurs appréciations, Frère Monson était alors capable de mettre en place un plan d'autonomie pour ces gens. En plus du devoir d'aider l'évêque à veiller sur les personnes qui sont dans le besoin, la Société de secours prend l'initiative d'organiser, d'enseigner et d'inspirer les sœurs de son organisation à devenir personnellement autonomes. Pour comprendre leurs responsabilités, les dirigeantes pourraient poser quelques questions importantes comme: qu'est-ce que l'autonomie? Quelles sont les personnalités, les responsabilités personnelles de chaque sœur en matière d'autonomie? À quel point les sœurs de ma paroisse sont-elles autonomes? Quelles sont les compétences d'autonomie que les sœurs de ma paroisse ont besoin d'acquérir? Et comment allons-nous nous entraider pour devenir plus autonomes? Être autonome signifie que nous nous servons de toutes les bénédictions de notre Père Céleste pour subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille, ainsi que pour trouver des solutions à nos problèmes. Chacune d'entre nous a le devoir d'essayer d'éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent, et d'apprendre à surmonter les difficultés quand elles se présentent. Ce tableau accroché dans mon bureau dépeint une femme dans un local de réserve. Ce que nous retirons de ce tableau n'est pas tant un enseignement sur les locaux de réserve ni sur les conserves faites à la maison. Observez la femme. Elle est seule et nous ne savons pas si elle est mariée ou célibataire. Elle porte un tablier qui indique qu'elle est en train de travailler. Le travail est un principe fondateur de l'autonomie. On peut supposer que tout ce qui se trouve autour d'elle est le produit de ses propres efforts. Elle a fait quelques préparatifs personnels. Regardez son visage. Elle semble un peu lasse, mais très paisible. Ses yeux expriment sa profonde satisfaction. Elle a l'air d'une femme autonome. Comment devient-on autonome? On devient autonome en acquérant assez de connaissances, d'instructions et de capacités de lecture, de santé physique, en gérant sagement son argent et ses ressources, en étant forte spirituellement et étant prêt en cas d'urgence et d'imprévu, et en possédant un bien-être social et émotionnel. Quels sont donc les talents dont nous avons besoin pour devenir autonomes? Il était important pour ma grand-mère de savoir tuer et plumer un poulet. Je n'ai pas encore eu à tuer ni à plumer un poulet. Cependant, dans les premiers jours de l'Église, Brigham Young a imploré les sœurs d'apprendre à prémunir leur famille contre la maladie, à établir une industrie familiale, à tenir une comptabilité et des registres et à acquérir d'autres compétences pratiques. Ces principes sont toujours d'actualité. L'instruction continue de revêtir une importance vitale. Chacun de nous est un enseignant et un élève, et savoir lire et écrire, avoir des connaissances techniques et savoir raisonner sont une nécessité de chaque jour. Il y a également un grand besoin de communication au sein des couples et des familles, et savoir éduquer ses enfants n'a jamais été aussi important. Nous voyons par ailleurs une augmentation des dettes et du consumérisme dans le monde. J'ai demandé à quelques évêques quelles étaient les conséquences utiles à l'autonomie dont avaient le plus besoin les sœurs de leur paroisse. Ils ont répondu, celles de tenir un budget. Les femmes doivent comprendre ce qu'implique un achat par carte de crédit et le fait de ne pas dépasser son budget. La deuxième compétence mentionnée par les évêques était de savoir cuisiner. Les repas préparés, consommés à la maison, coûtent moins cher, sont meilleurs pour la santé et renforcent les liens familiaux. J'ai vu partout dans le monde de grands exemples de sœurs qui s'entraident afin de devenir autonomes. Aux États-Unis, les sœurs se rassemblent pour apprendre à budgéter leurs finances afin de pouvoir acheter prudemment et réduire leurs dettes. Les sœurs âgées enseignent aux plus jeunes à cuisiner et à préparer des repas sains dans leur foyer. Au Ghana, les sœurs apprennent à lire ensemble. Au Pérou, les sœurs mettent du riz et des haricots en sachets hermétiques et ainsi elles ne manquent pas de nourriture quand les tremblements de terre frappent. Aux Philippines, où les typhons se produisent régulièrement, les sœurs collectent des fournitures de première nécessité et de la nourriture dont elles auront besoin au moment d'évacuer leur domicile. Un deuxième tableau accroché dans mon bureau montre de quelle manière ce principe peut être appliqué partout. Ici, nous voyons une famille philippine dans sa paillote nipa en bois montée sur pilotis. Nous voyons sur le devant la grande jarre d'eau. Ces gens ont un panier de mangue, ils ont un peu de combustible pour cuisiner et ils ont une simple source de lumière pour voir autour d'eux. Ils sont assis à la table du dîner, la tête inclinée en prière. Accrochés au mur, on voit les mots brodés « La famille est éternelle ». J'imagine que la mère de famille a appris beaucoup de principes et de compétences d'autonomie qu'on enseigne ici aux réunions et aux activités de la société de secours. À quel point les sœurs de votre paroisse sont-elles autonomes? Pouvez-vous discerner leurs besoins? Et qui devrait aider la présidente de la société de secours dans cet effort? Parce que cette œuvre est divine et parce que la présidente de la société de secours a un appel divin, elle a droit à l'aide divine. Elle a également l'aide de bonnes instructrices visiteuses qui comprennent leur responsabilité de veiller sur les sœurs. Grâce au rapport qu'elle reçoit d'elle et d'autres sœurs, elle est capable d'apprendre quels sont leurs besoins. Elle peut aussi utiliser l'aide des comités et des jeunes sœurs qui ont une grande énergie et qui sont prêtes à servir. Ce troisième tableau accroché dans mon bureau s'intitule « La sage-femme pionnière ». Il évoque pour moi cette sœur aux compétences uniques qui peuvent être une bénédiction pour de nombreuses personnes. Mon arrière-arrière-grand-mère, Marianne Amblin, qui était sage-femme, en est une illustration. Elle a aidé à mettre au monde plus de 2000 bébés. Sa contribution en temps et en talent au magasin du Seigneur a été considérable. Pourvoir à ses propres besoins et à ceux des autres est la preuve que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été inspirée et les principes de l'autonomie m'ont été enseignés par l'exemple de ma mère et d'autres sœurs de la Société de secours. L'une d'entre elles était ma délicieuse belle-mère, June, qui a servi quasiment sans interruption dans des présidences de sociétés de secours pendant 30 ans. Quand elle nous a quittés subitement l'an dernier, elle a laissé derrière elle les marques d'une vie d'autonomie. Elle avait une recommandation pour le temple en cours de validité, des écritures et manuels d'études marqués par le bon usage qu'elle en a fait. Nous nous sommes partagés les casseroles, les poêles et la vaisselle dans lesquelles elle avait préparé des milliers de repas. Elle nous a laissé des couvre-lits qu'elle avait confectionnés. Elle croyait dans le vieil adage qui dit « Utilisez-le, usez-le, contentez-vous-en ou passez-vous-en ». Nous avons vu les réserves de nourriture qu'elle s'était constituées, qu'elle avait gardées et emmagasinées. Le plus touchant était des petits livres de comptes dans lesquels elle avait consigné soigneusement ses dépenses pendant de nombreuses années. Et comme elle était prévoyante, elle a laissé un peu d'argent qu'elle avait économisé en cas d'urgence et elle n'avait pas de dette. Le plus important était qu'elle avait enseigné et inspiré beaucoup d'autres grâce au talent qu'elle avait acquis. En tant que dirigeante, nous démontrons notre foi quand nous utilisons notre temps, nos talents, nos réunions et nos activités pour prendre soin en premier des choses qui sont essentielles pour le bien-être temporel et spirituel et pour le salut. Si nous le faisons, l'amour, l'unité, la joie, la fraternité et les bénédictions seront abondants. Je témoigne que l'œuvre de la Société de secours fait partie intégrante de l'Église rétablie du Seigneur et que son œuvre est dirigée par un prophète vivant aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Hello, brothers and sisters.
Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis David Burton, évêque président, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de six remarquables évêques du pieu de Centerville Nord, en Utah. Nous sommes à Welfare Square, à Salt Lake City, sur la place de l'entraide. Merci de vous être joints à nous pour cette discussion sur la responsabilité qu'ont les évêques de rechercher les gens qui peuvent avoir des problèmes d'autonomie et de veiller sur eux. Au début de cet échange, je pense à deux déclarations de J. Reuben Clark, fils. Le président Clark, qui a été membre de la première présidence de l'Église pendant de nombreuses années, a beaucoup œuvré à l'élaboration de ce qu'on appelait alors le plan de sécurité de l'Église, et qui est aujourd'hui l'entraide de l'Église. Un jour, le président Clark a téléphoné à un évêque pour lui dire qu'une mère qui élevait seule ses trois jeunes enfants venait d'aménager le jour même dans la paroisse de cet évêque. Le président lui a demandé de se rendre chez elle le plus tôt possible pour voir quelle aide il pouvait lui apporter. Il a dit à l'évêque, si je le pouvais, j'aiderais cette sœur, mais je ne suis que le premier conseiller du président de l'Église, et je n'ai pas l'autorité d'écrire un bon de commande d'évêque pour le magasin. Vous avez ce droit et ce privilège. C'est pourquoi je vous appelle et vous demande de faire ce que vous estimez devoir faire pour elle. Une autre fois, le président Clark a dit, au cours d'un discours d'une grande puissance, « Selon la parole du Seigneur, la seule personne qui ait mandat de prendre soin des pauvres de l'Église et qui puisse le faire à son interdiscrétion est l'évêque. C'est à lui et à lui seul qu'il incombe de décider si, quand, comment et combien de fonds de l'Église seront donnés à un membre de sa paroisse. » C'est là son obligation solennelle, imposée par le Seigneur lui-même. L'évêque ne peut pas échapper à ce devoir, il ne peut pas l'éviter, il ne peut pas le déléguer pour s'en décharger. Quelles que soient les personnes qu'il appelle à l'aide, c'est toujours lui qui est responsable. Quelles sont les responsabilités de l'évêque en matière d'entraide? Il y en a au moins trois. Elle consiste à, premièrement, enseigner aux membres les principes de base de l'autonomie et leur recommander de devenir autonomes. Les deux fascicules publiés récemment, Finances familiales et Réserves familiales, sont très utiles pour aider les membres à comprendre l'importance de l'autonomie. Deuxièmement, aider les membres du conseil de paroisse à connaître leurs responsabilités et à s'en acquitter. Troisièmement, apporter de l'aide conformément aux principes fondamentaux de l'entraide. Le nouveau fascicule intitulé « Pourvoir aux besoins de la façon du Seigneur, guide de l'entraide pour les dirigeants » qui vient d'être publié, vous rappellera l'objectif fondamental de l'entraide qui est l'autonomie et ses principes de base. Le Seigneur a révélé que les membres de l'Église doivent donner une partie de leur substance aux pauvres et que ces biens seront déposés devant l'évêque et conservés dans le magasin du Seigneur afin d'être distribués aux pauvres et aux nécessiteux. Chaque évêque dispose de plusieurs outils pour aider les pauvres. Nous appelons cet ensemble d'outils le magasin de l'évêque. Ce magasin comprend de l'argent donné par les membres qui pratiquent le jeûne et reçoivent les bénédictions. Deuxièmement, des articles produits en interne ou achetés que les évêques peuvent utiliser. Troisièmement, le temps, les talents et les ressources des membres. Ces talents qui peuvent être utiles et nécessaires avec l'argent et les denrées constitue le magasin du Seigneur. Le magasin du Seigneur est à disposition de chaque évêque et existe dans chaque paroisse. Contrairement à la sagesse conventionnelle, le magasin du Seigneur ne se limite pas à un bâtiment ou à un entrepôt rempli d'articles qui attendent d'être distribués. En s'acquittant de leur mission de rechercher les pauvres et de veiller sur eux à la façon du Seigneur, il leur faudra souvent prendre des décisions difficiles. Les évêques ont la bénédiction d'avoir tout à fait droit au don de discernement pour s'acquitter de cette tâche. Chaque cas individuel que l'on traite est différent et demande de l'inspiration. Guidés par l'esprit, tout en ayant en tête les principes fondamentaux de l'entraide, les évêques peuvent le mieux déterminer qui a des besoins, leur ampleur, quelle sorte d'assistance est nécessaire et pendant combien de temps elle le sera. Peut-être demanderez-vous, quels sont les principes fondamentaux de l'entraide éprouvés par le temps qui aideront les évêques à tirer le meilleur parti de leurs décisions? Premièrement, gardez l'esprit que la responsabilité de chercher les pauvres leur incombe. Être conscient qu'il ne suffit pas d'aider quand on nous le demande, l'évêque doit recommander aux dirigeants de la prêtrise et de la société de secours, ainsi qu'aux instructeurs au foyer et aux instructeurs visiteuses, de chercher les personnes qui sont dans le besoin. Deuxièmement, les évêques ont la responsabilité de garder l'esprit quand ils aident les personnes qu'ils doivent promouvoir la responsabilité personnelle. Chacun est responsable de lui-même. Quand la personne n'est pas capable de subvenir à ses besoins, la famille immédiate et la famille élargie ont l'obligation et la possibilité d'apporter leur aide. Troisièmement, nous utilisons l'expression « soutenir la vie », pas le train de vie. Quand nous soutenons la vie, l'aide de l'Église est destinée à fournir de la nourriture, des vêtements et un toit, ainsi que d'autres aides que l'évêque juge nécessaires pour aider la personne à parvenir à l'autonomie. Il est attendu des personnes qu'elles utilisent tous les moyens dont elles disposent pour subvenir à leurs besoins et qu'elles réduisent leur train de vie pour s'adapter à leurs contraintes budgétaires. Quatrièmement, le principe de base que nous suivons généralement est de fournir des biens plutôt que de l'argent. Quand c'est possible, l'évêque fournit aux membres des articles au lieu de leur donner de l'argent ou de payer leurs factures. S'il n'y a pas de magasin d'évêque, on peut utiliser les offrandes de jeûne pour acheter les denrées nécessaires. Cinquièmement, les principes de base importants est de donner des occasions de travailler et servir pour que les personnes conservent leur dignité pendant une période de difficultés personnelles. Il faut trouver des occasions de service et de travail à la mesure de la situation des bénéficiaires de l'entraide. Il n'est pas nécessaire que la valeur du travail ou du service soit équivalente à l'aide reçue, mais le travail ou le service doivent être suffisants pour éviter les maux de l'assistanat et l'instauration de l'idée que l'aide est un dû. Le conseil de paroisse peut apporter son aide en établissant et tenant à jour une liste de possibilités de travail de valeur. Après ce bref exposé des principes, abordons les questions que vous voulez poser concernant votre tâche importante de rechercher les pauvres et veiller sur eux. Avez-vous des questions? Frère Bednar,
je suis bien conscient que nous, évêques, avons la responsabilité particulière d'apporter l'assistance et l'entraide. Mais y a-t-il des personnes à qui nous pouvons demander de nous aider dans ce domaine?
L'évêque a la possibilité de faire appel à un certain nombre de personnes pour cette responsabilité, en particulier les membres du conseil de paroisse, les collèges de la prêtrise et la société de secours. Tous peuvent aider l'évêque à répondre aux besoins d'entraide temporaire et à long terme des membres. Ces dirigeants sont assistés par leurs instructeurs au foyer, leurs instructrices visiteuses et d'autres personnes qui ont des compétences particulières reconnues. Frère Bangerter.
Merci. Pour les questions d'entraide, comment, en tant qu'évêque, puis-je mieux utiliser l'aide de mes dirigeants de collège et la société de secours?
Les dirigeants de secours et du collège peuvent être extrêmement utiles et l'entraide devrait être l'un des rôles essentiels des collèges de la prêtrise et de la société de secours. Elle doit être abordée régulièrement dans vos réunions de présidence. Sous la direction de l'évêque, les collèges de prêtrise et la société de secours doivent aider les membres à trouver des solutions à leurs besoins d'entraide à court et à long terme pour qu'ils parviennent à l'autonomie. La présidente de la société de secours tient une place toute spéciale dans ce processus. Normalement, elle aide l'évêque en rendant visite aux membres qui ont besoin de l'assistance, de l'entraide. Elle les aide à évaluer leurs besoins et suggère à l'évêque l'assistance à apporter. L'évêque et la présidente de société de secours peuvent aussi s'aider de l'imprimer, analyse des besoins et des ressources. D'autres questions? Oui, Frère Smoot.
Frère Burton, comment recommandez-vous que nous enseignions la loi du jeûne afin de mieux la faire comprendre à nos membres?
La loi du jeûne est essentielle au bien-être spirituel des enfants de notre Père Céleste. Il établit la loi de la dîme et du jeûne pour le bien de son peuple. L'évêque doit enseigner à tous les membres l'importance d'obéir à ses lois. Il doit aussi enseigner les bénédictions que le Seigneur promet en échange de l'obéissance à ses lois. Ce sont, entre autres, la proximité avec le Seigneur, un surcroît de force spirituelle, le bien-être matériel, une plus grande compassion et un plus grand désir de servir. Dans certaines régions du monde, il y a des magasins d'évêques pour fournir de la nourriture et des vêtements. Là où il n'y a pas de magasin de l'évêque, on utilise des offrandes de jeûne pour fournir de la nourriture et des vêtements, ainsi qu'un toit, des soins médicaux et d'autres aides vitales. Il n'est pas requis que les dépenses faites sur les offrandes de jeûne dans la paroisse et dans le pieu restent équivalentes aux offrandes de jeûne versées. Encore une question?
Frère Burton, avec la situation économique actuelle, de plus en plus de familles et de membres ont du mal à payer les traites sur leur emprunt immobilier. Est-il permis d'aider à payer leurs prêts immobiliers?
Vous vous rappelez certainement que l'assistance de l'entraide est généralement destinée à être temporaire. Les évêques ainsi que les dirigeants de collège et de la société de secours et d'autres spécialistes, si nécessaire, doivent aider les bénéficiaires à établir un plan pour devenir autonomes afin de ne plus avoir besoin de l'assistance de l'entraide. Si le paiement d'un prêt immobilier à court terme les aide à réaliser leur plan de devenir autonomes, alors ce paiement pourrait être très souhaitable et permis.
Frère, est-il correct, si quelqu'un reçoit de l'aide des pouvoirs publics, de le faire bénéficier en plus de l'entraide de l'Église?
Les membres peuvent décider d'utiliser les ressources de la collectivité, notamment celles du gouvernement, pour répondre à leurs besoins de base. L'évêque doit s'informer de ces ressources. Les aides souvent utilisées sont les suivantes. Hôpitaux, médecins et autres services de soins, services publics de formation professionnelle et agences pour l'emploi, aide aux handicapés, La plupart des villes ont des conseillers familiaux, conjugaux, psychothérapeutes ou travailleurs sociaux qui adhèrent à nos valeurs. Le service de traitement de la dépendance sont plus largement disponibles que jamais. Quand des membres de l'Église reçoivent de l'aide d'autres sources que l'Église, l'évêque doit les aider à ne pas en devenir dépendants de quelque manière que ce soit. Quand c'est possible, les membres doivent travailler pour l'aide qu'ils reçoivent. Nous devons éviter les mots des allocations publiques et le sentiment d'avoir droit à de l'aide. Mes frères et sœurs, nous avons pu discuter pendant quelques brefs moments de principes sacrés touchant à l'aide apportée aux nécessiteux. Puisse le Seigneur bénir chacun d'entre nous, tandis que nous acquittons de notre rôle, que nous tendons la main aux enfants de notre Père Céleste, faisons montre de l'amour et de la compassion qu'engendre le service. Je prie le Seigneur de déverser ses bénédictions sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.
My brothers and sisters, how grateful I am.
Mes frères et sœurs, comme je suis reconnaissant de pouvoir vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le programme d'entraide de l'Église. Dans un quartier peu fréquenté de Salt Lake City, loin de la foule, se trouve un bâtiment bien connu. À cet endroit discret, des personnes motivées par l'amour chrétien travaillent les unes pour les autres, suivant le plein divin du Maître. Je parle de Welfare Square, également connu comme magasin de l'évêque. Dans ce centre, ainsi que dans de nombreux autres bâtiments dans le monde, des fruits et des légumes sont mis en conserve. Des produits de bas sont traités, étiquetés, entreposés et distribués aux personnes dans le besoin. Là, il n'y a pas de signe de programme d'aide gouvernementale, ni de transaction monétaire, car là, on n'y honore que les bons de commande signés par un évêque ordonné. De 1950 et 1955, j'ai eu la bénédiction d'être l'évêque de plus de 1080 membres dans une paroisse du centre de Salt Lake City. Dans cette paroisse, il y avait 84 veuves et environ 40 familles qu'on estime avoir besoin d'entraide pendant des périodes plus ou moins longues et dans des domaines différents. Pour pouvoir aux besoins des nécessiteux, chaque unité de l'Église avait reçu une tâche précise. Dans une paroisse, les membres produisaient du bœuf, dans une autre paroisse, des oranges, dans une autre, des légumes ou du blé. Quelquefois, même une variété d'un produit de base pour que le magasin soit rempli de denrées pour les personnes âgées et les nécessiteux. Le Seigneur a préparé la voie quand il a dit « Et le magasin sera entretenu par les consécrations de l'Église. Il sera pourvu aux besoins des veuves et des orphelins, aussi bien que des pauvres. » Suite alors ce rappel, « Mais cela doit être fait à ma manière. » Dans le quartier où j'habitais et où je servais, nous avions mis en place un projet d'élevage de volailles. La plupart du temps, ce projet a fonctionné avec efficacité. Il a pu fournir des milliers de douzaines d'œufs frais au magasin de l'évêque, ainsi que des centaines de kilos de volailles prêtes à cuire. Quelquefois, cependant, cette expérience de fermier citadin bénévole a provoqué non seulement des ampoules aux mains, mais aussi des sentiments de frustration. Par exemple, je me souviendrai toujours de la fois où nous avons réuni les adolescents de la prêtrise d'Aaron, de notre paroisse, pour procéder au nettoyage de printemps du site de projet Volaille. Nous étions nombreux à participer au projet, plein d'enthousiasme et d'énergie. Et nous avons rapidement déraciné, rassemblé et brûlé une grande quantité de mauvaises herbes et de débris. Autour d'un feu de joie, nous avons mangé des hot dogs et nous nous sommes félicités du bon travail accompli. À présent, l'emplacement était propre et rangé. Mais il y a eu un problème catastrophique. Le bruit et les feux avaient tellement perturbé les 5000 fragiles et capricieuses poules pondeuses que la plupart ont perdu leurs plumes d'un coup et ont cessé de pondre. Par la suite, nous avons toléré quelques mauvaises herbes afin de produire davantage d'œufs. Aucun saint des derniers jours qui a mis des petits pois en conserve, coupé des fans de betteraves, ramassé le foin, pelleté le charbon ou aidé à servir les autres d'une façon ou d'une autre, ne peut oublier ou regretter l'expérience d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Ce sont des hommes et des femmes dévouées qui contribuent à faire fonctionner ce vaste plan inspiré d'entraide. En réalité, les efforts seuls ne peuvent permettre à ce plan de réussir, car ce programme fonctionne grâce à la foi, à la manière du Seigneur. Partager ce que nous avons avec les autres n'est pas quelque chose de nouveau pour notre époque. Il nous suffit de lire le récit de un roi dans la Bible pour prendre de nouveau conscience de ce principe. Lorsque nous suivons le conseil du Seigneur, lorsque nous soucions des personnes dans le besoin, nous sommes tous bénéficiaires. Dans ce passage, nous lisons qu'une grave sécheresse avait frappé le pays. Il s'en était suivi une famine. Le Seigneur a demandé à Élie, le prophète, de faire quelque chose qui a dû lui sembler étonnant. « Lève-toi, Sarepta. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Fin de citation. Lorsqu'il a trouvé cette veuve, Élie lui a demandé, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Dans sa réponse, la femme a décrit sa situation désespérée, en expliquant qu'elle était sur le point de préparer un dernier maigre repas pour son fils et elle-même, puis qu'ils allaient mourir. La réponse d'Élie a dû lui sembler incroyable. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et la farine qui était dans le pot n'en manqua point, ni l'huile qui était dans la cruche. C'est là la foi qui a toujours motivé et inspiré le plan d'entraide du Seigneur. Lorsque nous jeûnons un jour par mois et contribuons de façon généreuse au fond du don de jeûne, une somme au moins équivalente à ce qu'auraient coûté les repas sautés, souvenons-nous des paroles d'Ésaïe au sujet du vrai jeûne. Je le cite, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. » Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Nos offrandes sacrées de jeûne financent le fonctionnement des magasins de l'évêque, pourvoient aux besoins financiers des pauvres et aux soins médicaux des malades qui n'ont pas d'argent pour se soigner. Bien sûr, de nombreux endroits, les dons de jeûne sont collectés chaque mois par les jeunes de la prêtrise d'Aaron, de bonne heure, généralement, le jour du sabbat. Je me souviens qu'un matin, dans la paroisse que je présidais, les jeunes gens se sont rassemblés, les yeux encore pleins de sommeil, un peu ébouriffés, se plaignant un peu de devoir se lever si tôt pour accomplir leurs tâches. Personne ne leur a fait de reproche, mais la semaine suivante, nous les avons emmenés à Welfare Square pour une visite guidée. Ils ont vu de leurs propres yeux une personne infirme tenir le standard téléphonique, une personne âgée remplir les étagères, des femmes mettre en place les vêtements distribués, et même une personne aveugle à poser des étiquettes sur les boîtes. Ils ont vu des personnes qui gagnaient leur vie grâce au travail qu'ils avaient fourni. C'est dans un profond silence que ces garçons ont été témoins de la manière dont chaque mois, leurs efforts pour collecter les dons sacrés de jeunes contribuaient à aider les nécessiteux et fournissaient du travail à des gens qui, sans cela, auraient été oisifs. Depuis ce jour béni, il n'a plus été nécessaire de les inciter à remplir leurs tâches. Le matin du dimanche de jeûne, ils étaient présents à 7 heures, en vêtements du dimanche, désireux de faire leur devoir de détenteurs de la prêtrise d'Aaron. Ils n'étaient plus seulement des distributeurs et des ramasseurs d'enveloppes. Ils aidaient à fournir de la nourriture aux pauvres, un toit sans abri, et tout cela à la manière du Seigneur. Ils étaient plus souriants, leurs pas étaient plus vifs. Peut-être comprenaient-ils mieux le passage bien connu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On pourrait se demander, au sujet de ceux qui participent au programme d'entraide, qu'est-ce qui suscite un tel dévouement chez chaque travailleur? La réponse est simple. Le témoignage personnel de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, le désir sincère d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Telle était la motivation de mes amis, maintenant décédés, qui travaillaient dans l'alimentation et qui m'a téléphoné à l'époque où j'étais évêque. Il a dit, « J'envoie au magasin de l'évêque un semi-remorque d'agrumes pour ceux qui ne peuvent pas s'en acheter. Pouvez-vous prévenir le directeur du magasin qu'il arrive et que ce sera gratuit? Mais évêque, personne ne doit savoir qui l'a envoyé. » Cet acte de générosité a apporté une joie et une gratitude que j'ai rarement vues. Je n'ai jamais douté non plus que de la récompense éternelle qu'a maintenant reçue ce bienfaiteur anonyme. De tels actes de générosité ne sont pas rares, ils sont fréquents. Sur l'autoroute très fréquentée qui fait le tour de Salt Lake City, il y avait autrefois la maison d'un homme célibataire et âgé, appelé Louis, qui, à cause d'une maladie invalidante, n'avait jamais eu de jour sans douleur, n'avait connu de nombreux jours de solitude. Un jour d'hiver, alors que je lui rendais visite, il a mis du temps à répondre à la sonnette d'entrée. Je suis entré dans sa maison bien tenue. La température, sauf dans une pièce, la cuisine, était de 4 degrés. La raison, il n'avait pas suffisamment d'argent pour chauffer une autre pièce. Les murs avaient besoin d'être tapissés, les plafonds abaissés et les placards remplis. Ému par la visite de mon ami, j'ai consulté un évêque et un miracle d'amour, suscité par témoignage, a eu lieu. Les membres de la paroisse se sont organisés. L'œuvre d'amour a commencé. Un mois plus tard, mon ami Louis m'a appelé pour me demander de passer voir ce qui lui était arrivé. Je l'ai fait, et j'ai effectivement été témoin d'un miracle. Les trottoirs, jusque-là soulevés par les racines de grands peupliers, avaient été remplacés. Le porche de la maison avait été reconstruit. Une nouvelle porte, avec une poignée brillante, avait été installée. Les plafonds avaient été abaissés, les murs tapissés, les boiseries repeintes, le toit remplacé, et les placards remplis. Cette maison n'était plus glaciale et hospitalière. Elle semblait maintenant murmurer une douce bienvenue. Lou avait gardé le plus beau pour la fin. Et il me l'a montré avec orgueil, fierté. Sur son lit, il y avait une magnifique couverture piquée aux couleurs du clan de la famille MacDonald, auquel il appartenait. Elle avait été confectionnée avec amour par les sœurs de la société de secours. Avant de partir, j'ai découvert que chaque semaine, les jeunes adultes apportaient un repas chaud et partageaient avec lui leur soirée familiale. La chaleur avait remplacé le froid. Les réparations avaient fait disparaître l'usure du temps. Mais plus important, l'espoir avait chassé les espoirs. Et l'amour régnait, triomphant. Tous ceux qui avaient participé à cette histoire touchante de la vie réelle avaient découvert une signification nouvelle et personnelle de l'enseignement du Maître. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À tous ceux qui m'entendent, je déclare que le plan d'entraide de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est inspiré de Dieu, notre Père. En vérité, le Seigneur Jésus-Christ en est l'architecte. Il nous lance, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Puissions-nous entendre sa voix. Puissions-nous ouvrir notre cœur à sa présence. Et puisse-t-il être notre compagnon constant lorsque nous nous efforçons de servir ses enfants. C'est là mon humble prière, en son saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.